Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On a presque atteint la parité dans le studio ici aujourd'hui. Il y a Francine qui est toujours avec moi, parce qu'on co-anime cette émission-là. Et de l'autre côté de la vitre, il y a aussi un gars et une fille, sans faire de jeu de mots.
Bonjour Yvan. Je me questionne d'emblée sur l'utilisation du mot « presque ». Qui est une demi de quoi?
Je me trompe.
Puisque 4 divisé par 2.
Je me trompe
ça fait
complètement. Il n'y a pas de presque. On a atteint
ça me rassure.
La parité parce qu'il y a Mathieu Tessier, l'autre côté de la vitre, et il y a Jennifer. C'est Jennifer Ando, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bravo. Et je sais que Mathieu, vous êtes venu à vélo aujourd'hui, à scooter. Et Jennifer, vous venez comment, vous?
Moi, je viens en métro.
Je viens en métro. Alors, moi, je suis venu en auto. Et Francine, vous êtes venu à pied.
En jambe, oui.
En jambe.
En jambe et oui.
On a toutes les façons de venir sont représentées à notre émission d'aujourd'hui. Il fait un temps magnifique. Et je pense que c'est un présage de qu'est-ce qui s'en vient aussi. Ça va sentir le barbecue en fin de semaine.
Pas seulement ce week-end, parce que si vous regardez la météo 7 jours, c'est sûr que vous allez me dire que souvent ça change.
Oui, c'est ce que je veux dire.
Mais comme il y a du soleil, il y a des petits soleils de dessinés partout, moi j'ai décidé que ça ne changerait pas.
Oui.
Alors donc, je vous dis, là, vous êtes parti pour plusieurs jours.
On s'obstine sur beaucoup de choses, mais là-dessus, je suis 100% avec vous.
Bon, ça part bien l'émission.
C'est tout un démarrage. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine?
Deux choses. La première, j'ai fait comme, je vous dirais, les presque 9 millions qui l'ont fait avant moi. Il doit en avoir beaucoup plus qu'ils l'ont fait après moi. J'ai visionné la bande-annonce de Dune 2, attendue pour le 3 novembre. Dernier film de Denis Villeneuve,
oui.
La suite de 1. Et c'est, ça donne le frisson. Alors, on attend avec grande hâte le dénouement, en fait, des aventures de Paul Atreides, puisque c'est lui le héros des deux premiers volets du roman de Frank Herbert, mais pas après. Après, il devient beaucoup moins important. Alors, je l'ai visionné à plusieurs reprises.
Plusieurs reprises?
Oui, c'est magnifique. C'est magnifique, l'image, la musique. Écoutez, c'est ça. Il va falloir... On se peut plus. On se peut plus, mais il faut attendre.
Moi, j'ai reçu le livre, pas à ce Noël-ci, le Noël d'avant.
Oui.
Donc, quand j'ai entendu qu'il y avait la bande-annonce du deuxième tome qui sortait, le film, évidemment, ça m'a fait réaliser qu'il me reste juste quelques mois pour le lire.
Ah, je sais pas comment vous faites. Moi, Frank Herbert, là, j'ai lu ça, là, mais d'une traite. Là, ouais. Moi, il faut dire que je suis amateur de ce type de littérature-là. Tolkien, Herbert, Isanov, etc.
Tolkien, non.
Et j'adore. Aussi, il faut absolument que je souligne le British Vogue, donc la revue Vogue, mais dans sa facture britannique, non pas pour parler de ce qui s'en vient demain, le couronnement de Charles III, mais dans son numéro de mai 2023, la page couverture, c'est une écrivaine irlandaise, Sinéad Burke, qui est naine. À l'intérieur, vous avez des portraits de toutes sortes de personnes qui ont des limites ou des handicaps. La première avocate noire au Royaume-Uni, une jeune dame qui est écrivaine et commissaire aux droits de l'homme, qui est paralysée des jambes. Nicolas Milton, le frère de Lewis Hamilton, qui est atteint de paralysie cérébrale. Et à 23 ans, il a participé à un championnat britannique de voitures de tourisme. Alors, ce ne sont que quelques-uns des portraits qu'on retrouve dans le British Vogue, qui est en vente ici à un coût assez élevé, mais on peut voir quand même quelques portraits sur les plateformes.
On pourrait peut-être faire un « Au-delà des limites » en anglais.
Ah oui, mais peut-être que certaines de ces personnes parlent français aussi. On ne sait trop.
On va se mettre sur le téléphone, on va vérifier. De mon côté, la semaine dernière, samedi, il pleuvait, il faisait pas beau. Je suis allé au cinéma, j'allais voir Les Trois Mousquetaires. C'était vraiment bon. Et ce qu'il y a de particulier, puis j'oublie le nom du responsable de la photographie, c'est un Québécois, mais j'oublie son nom. D'ici l'heure et demie, je vais le retrouver.
Là, on va peut-être le trouver, là, si on le cherche un peu.
On va mettre un homme ou une femme là-dessus.
Oui, c'est ça. C'est
alors,
ça.
Lui, il est très, très près des gens. Il fait des plans-séquences. Les séquences de Cap et d'Épée là, sont renversantes. Je vous suggère d'aller voir ça, mais pas cette semaine parce qu'il va faire beau. On a déjà établi ça. À notre émission d'aujourd'hui, Francine. Là, je vois tout le monde qui est en train de chercher.
Bon, alors là, je ne pourrais pas gagner le concours parce que vous m'avez interrompu.
Non, mais je pense
pour une
que
bonne
c'est
cause.
Mathieu et chronique... Jennifer là, qui sont en train de faire quelque chose là-bas. Je vois ça. Oh, attends, on voit un signe de la... C'est Martin Bourboulon. Voilà.
C'est Est-ce que ça va?
Oui, c'est
oui,
fait.
Okay.
Vous pouvez y aller.
Chronique histoire avec Marcel Dugas. Les ballets africains, volume 2. En fait, il va,
volume 2,
il va faire la suite de la semaine dernière et il va nous montrer que, ben, il y avait une certaine évolution, une ouverture d'esprit dans la population, mais que du côté des élus, des policiers, etc., c'était plus,
hein?
Oui, il était beaucoup plus frileux. Mm-hmm. Du côté technologique, ben, on va parler de technoférence. J'en dis pas plus. Oui. De votre côté, vous avez deux invités.
Oui, un que j'ai rencontré par hasard il y a 2-3 semaines maintenant, qui est le directeur du défi Altergo. Il s'appelle Yann Martin et c'est tout un bonhomme. Moi, faire des wheelies avec ma chaise roulante comme je l'ai vu faire, ça m'a coupé le souffle. Donc, il est directeur au défi Altergo, mais il a fait plusieurs autres choses et il va nous en parler. Moi, je suis surtout curieux de savoir qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Et finalement, je vais parler aussi avec Alexandre Saint-Arnaud de la Fondation des aveugles du Québec. Ils ont commencé leur programmation du printemps et ils vont nous raconter comment ça se passe. Et il y a plein d'autres choses, des chroniques régulières. Alors, on commence ça, les amis, de l'autre côté de la fenêtre. Allons-y.
J'ai l'air sage si tu... savais, je ne le suis pas. Tu rougirais si tu voyais tout ce que je vois. Dis-moi, je crois. Je connais pas l'eau de ta bouche. Je connais pas ta langue dans mon souffle. Je connais pas tes mains quand tu touches. Je connais pas l'eau de ta bouche. Je connais pas ta langue dans mon souffle. Je connais pas tes mains quand tu touches. Mais j'ai chaud comme si je sentais que le mélange des corps est parfait. On se dévore des yeux en secret. Ma tête tourne, mais mon corps sait que ton corps sait. Ma tête tourne, mais mon corps sait que ton corps sait. Et je n'arrête pas de regretter. Les visages, mon corps, autant que tu le voudras. Encore une fois, je connais pas l'eau de ta bouche, je connais pas ta langue dans mon souffle, je connais pas tes mains quand tu touches. Je connais pas l'eau de ta bouche, je connais pas ta langue dans mon souffle, je connais pas tes mains quand tu touches. Ma tête
Jolie pas de love, non, seulement la flamme de mon feu. Jolie ne veut pas de love, non, seulement me ride comme un surf. Jolie ne cherche pas de héros, Jolie ne cherche pas Roméo. Ever ride avec le devil, ever ride avec le devil. Appel au secours, chance droit vers ses courbes. Elle me dit tais-toi et écoute, penche-toi et écoute. Pas droit au but, ne doute pas, la peau qui brûle, la tête qui tourne, sans la secousse. Quand on se touche, le soleil se lève alors qu'on se couche.
Alors, c'était la chanson « Sorbet collant » parce qu'on s'en va vers des journées plus chaudes. Stéphanie Boulay, Ingrid Saint-Pierre. Et là, je ne sais pas comment prononcer. Rhymes? C'est ça, R-Y-M-Z. C'est lui qui faisait le petit rap à la fin. Francine, c'est à vous.
Du côté du devoir, on va commencer les unes avec le devoir. « Je ne veux pas être un sans-abri ». Éric Martinez, un résident de Pierrefonds qui s'exprime ainsi. Le Zachary Gaudreau s'est rendu à Pierrefonds-Roxboro et évidemment, on parle ici des crues printanières à répétition. Les pieds dans l'eau, encore une fois, devant la fréquence accrue des inondations dans Pierrefonds-Roxboro, des résidents de l'arrondissement montréalais sont à bout de souffle. Ils envisagent de quitter les lieux, parfois après avoir demeuré au même endroit pendant des décennies. C'est un choix déchirant qui témoigne de l'importance de mieux accompagner les victimes répétées des crues printanières dans leur transition vers un nouveau milieu de vie. À ce sujet, d'ailleurs, le journaliste s'est entretenu avec le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfousse, qui estime qu'au-delà des aménagements implantés en réaction aux inondations depuis quelques années, les villes n'auront d'autres options que d'envisager de changer la vocation de certains secteurs résidentiels. Il a aussi rencontré la spécialiste des risques climatiques et de l'adaptation au consortium Ouranos, Ursule Boyer-Villemaire, qui, elle, de son côté, estime que la stratégie du pansement n'est plus suffisante. Il faudra envisager de transformer certains secteurs résidentiels touchés régulièrement par des crues printanières pour leur donner une nouvelle vocation, dit-elle. Alors, évidemment, ce phénomène-là ne se limite pas Pierrefonds, Roxboro. On le retrouve un peu partout présentement au Québec, là, dans plusieurs régions. Et je sais que vous allez y revenir un peu plus tard
Gatineau,
en parlant.
Pour Gatineau, si je me rends jusque-là.
Si vous vous rendez jusque-là.
Jusqu'à Gatineau.
OK. Alors, si vous vous rendez jusqu'à Gatineau, vous en parlerez. Sinon, ben, on prend en note que Gatineau est aussi dans certains secteurs, dans cette situation-là. À la une de la Presse Plus, on parle du milieu de travail et de comportements déplacés qui sont monnaie courante. Le ministre Jean Boulet a été renversé par un rapport choc. C'est ce que nous apprend Ariane Kroll. Les comportements sexualisés, inappropriés ou discriminatoires en milieu de travail sont monnaie courante et nécessitent une réforme législative majeure, conclut un comité d'experts indépendante dans un imposant rapport rendu public vendredi matin. Le ministre du Travail, Jean Boulet, assure prendre l'affaire très au sérieux et promet d'y donner suite. D'ailleurs, il dit qu'effectivement, ce rapport-là ne sera pas tabletté. Au Québec, pratiquement une personne sur deux a observé ou subi un comportement sexualisé, inapproprié ou discriminatoire en milieu de travail dans la dernière année, signalent les auteurs qui ont fait extraire les données québécoises d'un sondage réalisé par Statistique Canada en 2020. Alors, on est loin de changer les comportements, là, malgré tous les plans et toutes les politiques qui peuvent être adopté depuis quelques années.
Et le ministre Boulay, je pense, est un ancien avocat du milieu du travail.
C'est peut-être possible. En tout cas, il parle beaucoup régulièrement du tribunal administratif du loyer. Donc, je ne sais pas s'il appartenait à ce groupe-là ou en tout cas, oui, il semble connaître. On pourra vérifier effectivement quel était, dans sa biographie, quels étaient ses antécédents avant de devenir ministre. Mm-hmm. C'est assez difficile de ne pas parler de la monarchie, n'est-ce pas, puisque demain, Charles III deviendra officiellement notre roi. Et Francis Veille, dans la presse, signe une chronique que j'ai trouvée très intéressante.
L'émotion me gagne.
Mais c'est pour ça que je vais aller du côté financier.
D'accord.
Alors donc, on ne fera pas trop d'émotions, on ne sera pas trop sensible et on n'aura pas besoin de sortir nos mouchoirs. La question à 47 millions. Alors, Francis Veille s'est posé la question « Combien coûte la royauté aux Canadiens? » Il dit c'est une question bien légitime. Elle revient d'actualité dans le contexte du couronnement du roi Charles III. Et c'est le cas surtout au Québec où la monarchie est très impopulaire, c'est le moins qu'on puisse dire.
Depuis longtemps.
Depuis longtemps. En fait, il révèle le chiffre presque au début de la chronique et dit « Je ne vous ferai pas languir davantage » parce que ce chiffre, il l'a obtenu, ce chiffre de 47 millions, en épluchant les états financiers du bureau de la gouverneure générale, en plus des comptes publics et budgets de dépenses du gouvernement fédéral et des 10 provinces là, qui sont reliées essentiellement à la royauté d'une certaine manière. Cette somme comprend, entre autres, et c'est là que moi, en tout cas, j'étais très surprise, la rémunération des 160 employés du bureau de la gouverneure générale.
160
employés, c'est ce que révèle Francis Veille. C'est quand même...
C'est beaucoup.
Alors, comme des dépenses pour les locaux, pour les déplacements, pour les télécommunications et même pour les retraites des anciens gouverneurs généraux. Alors, c'est beaucoup et c'est important. Et on note que le salaire de la gouverneure générale actuelle, Mary Simon, est de 350 355 $ par année. Okay. C'est inclus là-dedans.
Mais est-ce qu'il spécifie la portion du Québec? Pour ça a l'air le chiffre pour le Canada.
C'est pour l'ensemble du Canada. La portion pour le Québec, je ne vois pas. Attendez, ce que les provinces consacrent à la monarchie, il y a 9,5 millions, mais c'est pas les dépenses fédérales. Et au Québec, on est à 777 700.
Oh.
Mais c'est les dépenses annuelles pour les lieutenants-gouverneurs par les provinces et non pas par le gouvernement fédéral.
D'accord.
Un exploit, une expédition, le Québec du sud au nord. C'est une traversée historique à vélo et à ski qui a été réalisée par deux aventuriers. Oui. Alors, ils viennent de terminer. En fait, ça s'est conclu, heureusement, le 28 avril dernier. Samuel Lalande-Marken et Simon-Pierre Gonneau qui ont atteint le cap Anulivirkik à Wolstenholm après un exigeant périple de 3 mois sur 3000 kilomètres dans des conditions météo extrêmement difficiles.
Oui, je sais, ils sont partis à vélo d'ici. Le Simon Lalande, je ne me souviens pas quoi, c'est le fils d'une amie de ma conjointe qui s'appelle elle-même
Marie Lalande.
Mais c'est un hasard. C'est un hasard. Ça ne sera pas...
Et enfin, je vais terminer parce que, bon, c'est à la page qui couvre la une du Journal de Montréal et on en a beaucoup parlé, entre autres dans Le Devoir et dans la presse où on a fait une critique, 12 minutes de cinéma avec Céline pour le film Aimer à nouveau, qui semble assez bien évalué, sauf la presse qui a été très critique.
Oui, très dur,
mais Le Devoir a donné 3 étoiles, le Journal de Montréal 3,5 étoiles. Alors évidemment, c'est une petite comédie romantique, mais on dit que Céline s'en tire bien.
Mais Céline, elle joue du Céline.
Elle joue du Céline, mais quand même, devant la caméra, elle aurait pu être moins à l'aise, parce que c'est un rôle au cinéma, mais elle continue d'être elle-même. Oui. Et c'est ça, c'est un petit film léger, d'après ce qu'on peut voir. Hein. C'est l'histoire de quelqu'un qui est en contact avec Céline Dion, qui écrit finalement sa biographie et qui est aussi en contact avec une jeune femme qui vient de rompre avec son amoureux et qui lui envoie des textos à ce fameux biographe.
Ah bon. C'est à voir un jour qu'il va faire moins beau.
Peut-être.
D'accord. Et on s'en va parler avec Monique. Je fais
bonjour,
ça maintenant.
Bonjour, Yvan. Bonjour, Francine.
Ça fait, bonjour.
Ça fait deux jours de suite. Je commence à prendre l'habitude.
Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, écoutez, Yvan, d'abord, j'aimerais vous rappeler que les nouvelles que je vous présente proviennent de trois sources. La Tribune, Info Radio Canada Estrie et le site web de Estrie Plus.
Donc, c'est vrai, là?
Oui, tout ça, c'est vrai, là. Oui, ça dépend des nouvelles à chaque semaine, mais ce sont mes trois sources principales.
D'accord.
Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'Association du baseball mineur de Lac Mégantic.
Oui.
Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Les Blue Jays de Toronto offrent une somme de 150 000 $ pour que cette association puisse mener à terme les travaux pour d'entretien de leur terrain. Alors, il semblerait qu'il y avait plusieurs membres de l'association qui étaient rassemblés au Musicafé et qui ont reçu la nouvelle sous un tonnerre d'applaudissements. Alors, tout ça pour dire qu'il y a parfois des bonnes nouvelles.
On applaudit, nous aussi. Le Musicafé, c'est une
nouvelle de la semaine. Et là, c'est un peu moins bon. Alors, la MRC de Mumfrey Magog se voit dans l'obligation de revoir, pour des raisons financières, la manière dont fonctionne son service de transport adapté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est qu'on délaisserait le service personnalisé pour offrir des circuits prédéterminés de jour la semaine. Alors, cette nouvelle, vous en doutez bien, inquiète bien des gens, entre autres la mère d'un jeune homme qui vit avec l'autisme, qui se prévalait de ce service les soirs et les fins de semaine pour se rendre au travail. Donc, le dilemme est assez important pour eux. Présentement, et jusqu'au 26 mai, donc, le service de transport adapté de la MRC de Mumfrey Magog fonctionne sur appel selon les besoins des bénéficiaires. Mais le nouveau contrat conclu entre la MRC et son fournisseur de services vient presque de tripler les coûts de transport, ce qui fait en sorte que la MRC n'a pas le choix de revoir son offre.
Mm-hmm.
Donc, c'est évident que cette modulation de l'offre viendra inévitablement avec certaines conséquences pour les usagers, perte d'autonomie et sentiment d'indépendance, peut-être un peu, blessé. Je passe maintenant au bénévolat. Alors, l'ancien maire et citoyen de Dodswell, Marc Latulippe, constate une baisse de l'implication bénévole dans son secteur. Alors, il entreprend, avec l'aide de la municipalité, une vaste consultation pour trouver les outils qui vont permettre de raviver l'intérêt de la population à offrir son temps. Il faut souligner que Marc Latulippe est bénévole depuis toujours et il constate que ses semblables sont de moins en moins nombreux à le faire, surtout depuis la pandémie. Alors, il y a beaucoup de projets demandés par la population, mais il n'y a pas de bénévoles au rendez-vous. Alors, il devient vital de repenser le système de bénévolat. Le sondage ouvert à toute la population, qu'on soit majeur ou mineur, a été déposé sur le site web de la municipalité. Et à partir des données récoltées, ben, on aura un portrait du bassin potentiel de bénévoles, des personnes qui veulent s'impliquer, qui ne savent pas nécessairement où cogner, et les citoyens qui souhaiteraient peut-être que le gouvernement mette en place des incitatifs pour faire du bénévolat. Qui sait? Maintenant, parlons séduction.
Parlons séduction, oui, justement.
Oui, lance Coaticook, hein, vous connaissez.
La canne glacée.
Lance une campagne de promotion pour inviter les familles à s'établir dans la municipalité. Donc, il y a des vidéos et photographies sous le thème « Si près de tout, si près de vous » qui seront diffusées sur les réseaux sociaux jusqu'au mois d'octobre. Avec ce visuel, ben, la ville souhaite faire découvrir les mille et une raisons de vivre à Coaticook, outre la crème glacée que je sais que vous aimez beaucoup.
Oui, et les gorges?
Oui, oui. Alors, la popularité grandissante du télétravail est une carte de plus dans la manche de la municipalité. Il y a des nouveaux projets résidentiels qui sont prêts à accueillir les nouvelles familles qui souhaiteraient se construire. Si on est intéressé, ben, on n'a qu'à communiquer avec la municipalité pour recevoir de l'accompagnement dans les démarches d'intégration. Et je terminerai avec la ville de Sherbrooke qui se prépare aux éventuels incidents naturels. La région est épargnée par les inondations ce printemps, mais serait-on prêt à intervenir en cas de crue soudaine? Alors, c'est un hasard qu'il y ait une journée où on simule une situation justement problématique et ce qui se passe présentement dans d'autres régions du Québec. Alors, 150 sinistrés doivent trouver refuge alors que la rivière Saint-François est sortie de son lit. Voilà le scénario préparé par une firme externe qui a été dévoilée ce matin, donc hier matin plutôt, aux employés municipaux dans le cadre d'une simulation. Alors, pour les participants, c'est facile d'y croire quand on voit les nouvelles qui arrivent, par exemple, de Baie-Saint-Paul. Alors, selon le coordonnateur des mesures d'urgence, Stéphane Simoneau, mettre en pratique la théorie est essentiel pour la préparation des équipes. Sherbrooke, comme plusieurs villes, a d'ailleurs encore du chemin à faire pour rendre ses infrastructures moins vulnérables. Le réseau d'égouts, par exemple, est parfois incapable d'accueillir les fortes quantités de pluie. Alors, au travail, les employés municipaux, avec peut-être de nouvelles subventions du gouvernement pour arriver justement à mettre ces réseaux à niveau.
Un gros merci, Monique, et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. De mon côté, du côté du droit dans l'Outaouais, à Gatineau, justement, les inondations, il y a des bâtiments en zone inondable qui, selon la mairesse France Bellil, ne pourront pas probablement traverser le temps. Alors, il va y avoir une remise en question qui devra être faite. Le niveau de l'eau de la rivière des Outaouais continue d'augmenter et on s'attend à un pic quelque part en après-midi aujourd'hui avant que ça redescende. Il y a un gros bassin versant dans ce coin-là, alors c'est important. Du côté du soleil à Québec, il va y avoir une marche dimanche à 13h, une marche contre le tramway et, entre guillemets, les fausses promesses du gouvernement. Ah, donc, ça va être ça serait une manifestation pour deux choses. Ce que j'ai noté en particulier, c'est que dans un sondage Somme le soleil, on chiffrait cette semaine un appui favorable au méga projet de tramway de seulement 37 % des répondants dans la région de Québec. Et finalement, du côté de la MRC de Bellechasse, la ministre Geneviève Guilbeault est allée rencontrer les gens de la MRC, a parlé de la vision du gouvernement et les gens de la MRC ne sont pas du tout satisfaits. Ils se sentent complètement mis de côté. Ils trouvent que c'est un discours citadin à des problèmes ruraux. On fait une petite pause et au retour, on va parler avec M. Yann Martin du défi Altergo. À tantôt.
Vous écoutez au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
À penser qu'on était rendu amis. Je pense pas qu'elle a bien compris. Oh non, she used to be ma copilote. On a roulé sa 440 direct sur le pont Pineuf. 140, jamais pogné du cas de vitesse. Appelle-moi Paul Walker. Rolling in the deep, comme Adèle. À un moment donné, ça roulait plus. J'avoue que j'avais un peu plus. Mais je suis rendu avec mon permis d'adulte. J'ai 15 points d'inaptitude, oui. Falling, oui. Falling down. Comme les feuilles en automne. Bah, c'était pas la bonne. Fait que là, je m'en vais juste prendre mon GPS pour me rendre. Si tu me textes, je réponds. Puis check mon flex, on se croise dans la rue. Toast, tweeted love. J't'ai tout donné, puis tu me réponds pas. Avant, tu voulais jamais bouger. Restez tous sur le party and bullshit. Tu fais partie des cool kids.
C'est dans l'ouest avec un Cupid dans le tunic. Pas loin du kit de survie. Non. Seulement 4 points sur mon permis. Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la belle vie. Hein. T'es ma copilote comme Letty. Hein. Baby, je suis place always. Prends donc le volant. Elle met de la crème solaire en spray. Et puis elle enlève ses collants. Et t'en tournes sur la plage. Je te joue deux, trois accords, yeah. Qui je te pitch dans le lac, mais oui, seulement si t'es d'accord, yeah. On a passé les derniers étés sur la route, passer le plus loin qu'on peut sur le cruise. S'il faut, j'ai quelque part du droit, on dormira dans le parking lot.
Tiens mon bang et real. Tu voulais pas me donner le chemin, fait que j'ai continué tout seul. Je peux écouter la musique que je veux, mais j'ai personne pour rouler mes backwoods. Quand je roule, c'est un peu dangereux. Je roule quand je roule, ils peuvent même m'arrêter. Fait toujours un peu plus chaud dans le nord, anyway. Je m'en vais fly sur le highway. Si jamais je prends un accident, tu viendras me rejoindre à l'urgence. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance.
Jusqu'à Vancouver, ou bedon jusqu'au Mexique pour skip l'hiver. Je peux rouler jusqu'à l'autre bout du monde, à la recherche des stations d'essence. Si je pouvais, j'aurais une voiture volante. Road trip on the ocean with the whole gang. Nous deux au top de la plus haute montagne. Wow, wow. Quand je suis high, y'a pas de turbulence. Je fais juste tester mon endurance. Ça sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance.
Et c'était copilote avec Fouki et J. Scott.
OK, ça, c'est les vrais noms, là. Hein? C'est eux autres qui ont gagné le prix, hein, l'autre fois?
Oui, oui.
C'est ça. Hein? La chronique Au-delà des limites, cette semaine, je pense que je l'ai dit à quelques reprises dans les dernières semaines que j'ai été bénévole au défi Altergo.
Ah oui? Ah, oh, vous me l'apprenez.
Ah, pourtant. Et j'ai croisé quelqu'un que qui m'a beaucoup impressionné. On ne s'est presque pas parlé. On s'est parlé au téléphone dernièrement, mais pendant le défi, on ne s'est presque pas parlé. Il s'appelle Yann Martin. Il est toujours le directeur. Bonjour, Yann.
Bonjour, Yvan.
Alors, dimanche dernier, se terminait la 40e édition du défi Altergo. Et c'était la première fois qu'on revenait dans une formule en présentiel. Comme ça se passait avant la pandémie. Est-ce que c'était votre première expérience de directeur du défi en présentiel?
Oui, en fait, pour moi, là, c'est nouveau comme travail. Je suis en poste depuis 6 mois. Donc, j'ai travaillé à la préparation du 40e, puis j'ai pu vivre là, le retour en présentiel. J'avais déjà connu le défi dans le passé. J'étais déjà allé dans d'autres fonctions pour assister au défi. Mais dans le rôle de directeur, là, c'était une première pour moi en présentiel.
Puis, par quel chemin vous êtes arrivé jusqu'au défi?
Oh, c'est un long chemin, mais en fait...
c'est correct, c'est le début de l'entrevue, on a le temps.
Ouais. Ben, il y a plusieurs choses. La première, tu sais, c'est moi, je suis en fauteuil roulant depuis 21 ans maintenant. Puis, j'ai toujours gravité dans le monde du sport adapté. Donc, par des contacts, des gens que j'ai rencontrés... Par la suite, j'ai fait des études en kinésiologie. Fait que j'ai été impliqué dans le monde du sport. J'ai travaillé dans le monde du sport adapté. Puis, dernièrement, bien, j'ai fait des études en management du sport au HEC. Donc, j'étais prêt à relever un défi professionnel dans le monde du sport, dans un rôle de gestion. Puis, au même moment, bien, j'ai été approché par des gens du défi sportif Altergo qui me disaient, bien, écoute, il y a un poste qui s'ouvre, est-ce que ça te tente?
Ah.
Le timing était parfait, donc j'ai sauté dans l'aventure.
Je comprends. Je passe les bonjours d'ailleurs de Dominique Tremblay, qui est notre correspondant en sport ici à la station, avec qui vous avez parlé beaucoup pendant le défi, semble-t-il, d'après ce qu'il m'a dit.
On a passé beaucoup de temps ensemble, au moins.
Voilà. Quelle était la place du sport dans votre vie avant et après votre accident?
Le sport a toujours été là. Par contre, il y a vraiment eu un changement où, avant mon accident, ben, j'étais un joueur de hockey. Je me concentrais là-dessus. Je jouais 10 mois par année. Puis c'était ça ma vie. Je vivais pour le hockey.
Est-ce que vous aviez l'intention de jouer à un niveau élevé?
Non, j'avais pas le. Il manquait du talent pour me rendre plus loin. Mais mon but, c'est de jouer. le plus longtemps que je pouvais. Puis, tu sais, j'ai eu mon accident à 17 ans, donc encore au secondaire, mais je regardais déjà pour aller peut-être dans un cégep qui avait un programme de hockey.
Oui.
Fait que c'était le hockey qui avait la place. Après mon accident, ben depuis que mon accident, j'ai eu la chance d'essayer beaucoup de sports. C'est ça la différence. J'ai eu la chance de toucher à pas mal tout ce qui se fait. Juste pour essayer, là, j'ai pas fait de sport de haut niveau, mais j'ai touché à beaucoup de sports. Je comprends les sports, comment ça fonctionne. Puis je suis plus un tripeur, puis j'aime ça toucher à tout que de me concentrer sur un sport en particulier.
Oui, je comprends très bien ça. Et vous vous êtes approché de la Fondation des sports adaptés. Est-ce que vous êtes toujours associé à cette fondation-là, d'une façon ou d'une autre?
Oui, je donne toujours un coup de main comme bénévole. En fait, avec la Fondation des sports adaptés, j'ai eu un drôle de parcours avec eux. J'ai rencontré le directeur général actuel, Steve Charbonneau, à ses tout débuts, quand il venait d'arriver en 2014.
Oui.
Puis... à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, il était déjà trop tard pour m'inscrire au programme de ski alpin d'hiver. Fait que j'ai attendu l'été d'après pour être dans le programme de ski nautique comme participant. J'ai okay, tellement aimé ça qu'après...
Vous êtes passé du ski alpin au ski nautique, c'est ça l'affaire?
Ben, j'ai pas fait de ski alpin. J'ai pas pu parce que j'étais trop tard.
Okay.
Mais j'ai embarqué dans le ski nautique quand Steve a ramené le programme en 2015. C'était 2015. Puis j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé la fondation, la façon que c'était fait, que c'était organisé, le côté sécuritaire. J'ai dit à Steve, je veux venir, mais je peux-tu faire plus, tu sais, je peux-tu m'impliquer comme bénévole? Ben, j'ai commencé l'été 2015 à m'impliquer bénévolement. Je suis devenu instructeur de ski nautique. L'hiver d'après, ben ça a été le programme de ski alpin. Je l'ai fait ça pendant 2 ans. Finalement, ben j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé avec la fondation pendant 2 ans. Pour finalement retourner comme bénévole. Mais depuis 2015, là, que été, hiver, je suis avec eux sur la neige, sur l'eau. Puis dans d'autres projets, à toutes les fois qu'il y a un nouveau jouet qui arrive à la fondation, que ce soit le paragolfeur, ben je l'essaie.
Vous l'essayez.
Les vélos électriques pour aller dans la montagne à Bromont, je suis allé les essayer. Fait que je suis encore pas mal impliqué avec eux là, quand ça donne.
Ça correspond pas mal à la petite image que je m'étais faite de vous quand je vous ai vu. Quand c'était la formation des bénévoles, vous nous avez dit un mot, puis il fallait monter vous aviez eu à monter une petite pente. Vous avez fait ça avec une facilité déconcertante et surtout la descente. Ça correspond pas mal à l'image que je me faisais de vous. D'ailleurs, j'ai une question quiz pour vous. Sur YouTube, je vous ai vu dans une entrevue en 2015 et vous annonciez que vous vous apprêtiez à relever un défi de faire 250 minutes consécutives en ski nautique, mais je n'ai pas trouvé si vous l'aviez vraiment fait. Qu'est-ce qui est arrivé?
Ben oui, je l'ai réussi. Je l'ai fait. C'était pour le défi inclus actif. L'idée, c'était de ramasser de l'argent pour la fondation des sports adaptés. Puis, je m'étais mis comme objectif de ramasser 250 $ puis de faire 250 minutes de ski nautique. Je pensais ou j'espérais le faire tout d'un coup au début. Par contre, on l'a divisé. Je pense qu'on a fait ça en 3 ou 4 blocs. Sur le coup, ça a bien été. Super bien été.
Oui.
Les jours suivants étaient un peu plus douloureux, mais je suis vraiment content de l'avoir réussi.
Fantastique. J'ai un fils qui termine sa maîtrise en kinésiologie, puis j'ai vu que vous aviez fait un parcours un peu semblable. Qu'est-ce qui vous a amené à la kinésiologie et de quelle façon ça vous aide maintenant dans votre travail?
En fait, la kinésiologie est arrivée dans ma vie par une belle rencontre que j'ai faite. En fait, j'étais suivi en physiothérapie pour des douleurs aux épaules, ce qui n'est pas anormal pour les gens en fauteuil roulant.
Mm-hmm.
Puis la physiothérapeute m'a dit, t'as-tu déjà rencontré notre kinésiologue? Depuis l'an aiguille, je l'ai rencontré. Puis j'ai vraiment, je vais dire, non, mais je suis tombé en amour avec le kinésiologue, la personne aussi, là, c'est devenu mon meilleur ami aujourd'hui.
D'accord.
Mais en posant des questions, en demandant qu'est-ce qu'il avait fait pour arriver là, il m'a expliqué son parcours. Puis j'étais dans une phase dans ma vie où je me remettais en question professionnellement, je cherchais un peu ce que je voulais faire. Donc, le timing était parfait pour faire un retour aux études à 27 ans. Je me suis inscrit à l'université pour aller en kinésiologie. Ce qui m'accrochait, en fait, c'était le côté... j'avais passé par la réadaptation plusieurs années avant. J'avais vu c'était quoi d'aider les gens, comment ça pouvait être utile d'avoir des bons conseils, d'avoir un accompagnement. Puis c'est ce que j'ai retrouvé quand je l'ai rencontré. Je me suis dit, c'est ça la job d'un kinésiologue, c'est vraiment d'accompagner les gens à pour leur permettre d'accomplir ce qu'ils désirent. Ils ont un objectif, ces gens-là. Puis quand ils viennent voir un kinésiologue pour aller chercher des conseils, ben c'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de l'accompagnement.
L'encouragement.
C'est ce que, ouais, l'encouragement, une façon de se dépasser. Puis c'est ce qui m'a accroché là-dedans. Puis au quotidien, ben ça m'aide juste à bien planifier ma vie personnelle, professionnelle, je veux dire, des bonnes habitudes de vie, puis une bonne façon de voir les choses, dans le sens un sens critique des fois qui va être utile, ou une pensée réflexive qui va me permettre de réfléchir justement avant de poser une action. Donc, des bonnes choses à faire là, au quotidien.
Malheureusement pour moi, le temps file à une vitesse impressionnante. Je me suis gardé quand même une dernière question dans notre conversation. Après tout ce que vous m'avez décrit, que vous avez fait, qu'est-ce que ça va être votre prochain défi?
Ah, bien là, le prochain défi, c'est de travailler sur la 41e édition du défi sportif Altergo. Mais travailler sur cette édition-là de A à Z, même s'il y a 40 ans d'histoire derrière, c'est vraiment l'occasion pour moi là, de planifier, de faire les bilans de la 40e édition, puis de commencer à travailler tout de suite sur la 41e, essayer d'amener ma couleur sur certaines choses, apporter les correctifs à ce qui fonctionne moins bien, garder ce qui fonctionne bien, bâtir une bonne relation avec l'équipe. On a eu aussi une équipe qui est nouvelle. Même moi, si j'étais nouveau cette année, les problèmes de ressources humaines ne nous ont pas épargnés. On avait beaucoup de nouveaux personnels dans l'équipe du défi sportif. Donc, c'est vraiment ça mon objectif. Là, une prochaine année remplie, puis occupée là, sur la préparation du défi sportif Altergo.
Fantastique. Et vous pouvez compter sur... Vous pouvez mettre mon nom sur la liste des bénévoles pour l'année prochaine aussi. J'avais le grand plaisir de parler avec Yann Martin, qui est le directeur du défi Altergo. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Je sais que la semaine prochaine, c'est congé pour vous, je pense.
Oui, on prend une petite semaine off.
Petite repeine de repos et au plaisir de pouvoir se recroiser.
Ben, ça va faire plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Sans attendre que le printemps nous enivre, sans attendre d'être libre, avant que le jour ne soit mort et que s'envolent nos désirs. Sans attendre la prochaine fois, sans attendre que l'on prenne un peu froid et retourner sur son chemin sans jamais se revoir. Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence. Aimons-nous pour que la vie enfin reprenne tout son sens avant la poussière et la cendre. Aimons-nous sans attendre, sans attendre que le destin nous sourie, sans attendre d'être moins fragile, malgré les cicatrices de l'amour qui ne tiennent qu'un fil, sans attendre que l'horizon ne se repose, sans attendre que ne se fanent les roses. Et ce qui
Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va bien. Alors, vous nous avez tenu en haleine cette semaine.
Toute la semaine.
La semaine dernière, il faut se rappeler que vous nous avez parlé d'un événement qui a créé beaucoup d'émoi en 1967 à Montréal, la troupe de danse guinéenne, dont des danseuses qui avaient dansé les seins nus. Cette semaine, deuxième partie. Alors, vous allez nous montrer que, dans le fond, il y avait une certaine évolution dans la population, mais un peu moins du côté des élus et des policiers.
Ben, c'est exactement le cas. Ben, je vais commencer par, si vous voulez, compléter le résumé de l'épisode de la semaine dernière que vous venez de nous offrir. C'est une troupe basée en Guinée qui s'appelait les Ballets africains. Ils sont venus se produire à Montréal à plusieurs reprises, d'abord en 1959, puis en 1961. Et les danseuses performaient certains tableaux. Ce n'était pas pour tout le spectacle au complet, mais certains tableaux des spectacles étaient performés les seins nus. Et l'escouade de la moralité de la police de Montréal est intervenue lors de ces deux présentations-là, en 59 et en 61, pour obliger les artistes à se couvrir, parce qu'un sein nu immobile, c'est de l'art, mais comme l'a dit un membre éminent de notre force constabulaire, c'est lorsqu'une femme se dandine sans soutien-gorge que l'obscénité commence.
Oui, quand ça bouge, hein, comme vous nous aviez bien expliqué la semaine dernière.
Voilà, quand ça bouge, c'est obscène. La troupe est revenue à Montréal en 1965. Pour la première fois, ils ont joué à la Place des Arts, qui n'existait pas à leur visite précédente. L'escouade de la moralité a assisté à la première du spectacle et, cette fois-là, n'a rien trouvé à redire à propos des poitrines découvertes. L'officier responsable a trouvé qu'il y avait trop de tam-tam, mais les seins, c'était correct. Le ballet a aussi dansé à Québec, où il n'était jamais allé auparavant, et encore là, aucune controverse. Donc, c'était un passage sans histoire pour une troupe qui avait maintenant ses aises chez nous. Mais si on pensait que toutes les controverses autour de la tenue des ballets africains étaient définitivement derrière nous suite à cette tournée de 1965, eh bien, on avait tout faux, parce que la série de spectacles offerts par les ballets africains à Montréal en décembre 1967 a mené 5 des artistes de la troupe, son directeur et la productrice du spectacle devant les tribunaux. L'escouade de la moralité de la police de Montréal a rappelé à tout le monde son existence en septembre 1967. Une troupe de théâtre nommée les Saltimbanques présentait au pavillon de la jeunesse d'Expo 67 un spectacle très, très expérimental qui s'appelait « Équation pour un homme actuel ». Et longtemps avant ChatGPT, on avait utilisé l'intelligence artificielle pour écrire la pièce. On avait pris un ordinateur de l'Université de Montréal, qui occupait probablement un pan de mur, là, comme les ordinateurs de cette époque-là. On l'avait alimenté de milliers de mots disparates et il avait créé des phrases qu'on avait assemblées pour donner un texte. Il y avait un tableau de la pièce qui traitait de sexualité. Il n'y avait pas de nudité, personne ne se touchait, mais on simulait des contacts sexuels et la trame sonore était très évocatrice. La police de Montréal a interrompu la dernière présentation de la pièce et a arrêté les 9 interprètes qui avaient participé au tableau en question, dont Carole Laure, alors âgée de 19 ans, qu'on a revue plus tard comme comédienne et chanteuse. Le juge a condamné les 9 artistes à une amende ou à 3 jours de prison, alléguant qu'il était indécent d'illustrer sur scène des fonctions que la moralité et la pudeur réservent à l'intimité. Le jugement a éventuellement été renversé en appel. Mais le procès n'était pas terminé lorsque les ballets africains arrivent en ville, et au matin de la première, Claude Gingras, plus tard un impitoyable critique de musique classique qui était aux arts en général à ce moment-là, s'est demandé dans la presse si on assisterait à une répétition de ce qui était arrivé au Saltimbanque. La police s'est entretenue avec les producteurs des ballets africains. On savait que des agents seraient dans la salle pour la première. La troupe était en pleine tournée canadienne. On avait joué à Toronto, à Ottawa, à Québec, à Sherbrooke, à Sorel, sans couvrir les danseuses. Tout s'était bien passé. On avait même performé à Joliette et le curé de l'endroit ne s'opposait pas au sein nu, mais on avait décidé malgré tout de faire porter un haut aux artistes. Mais le règlement qui interdisait la danse nue qu'on avait évoqué lors de précédents passages de la troupe dans la métropole existait toujours et la police, qui ne s'était pas opposée au poitrail découvert en 1965, va se manifester cette fois-ci. Le soir de la première, pas de nudité, mais il y en avait le lendemain. Et l'escouade de la moralité, qui je pense avait probablement des billets de saison, était sur place. On a pris des photos, uniquement à des fins documentaires, bien entendu. Et on a livré les sommations à comparaître à l'entracte du spectacle du lendemain. 5 danseuses sont accusées d'avoir participé à un spectacle indécent. La productrice et le directeur de la troupe sont accusés d'avoir encouragé des artistes à participer à un spectacle indécent. Cette fois, on en avait contre le fait que les danseuses accusées étaient âgées de moins de 18 ans. On n'a toutefois pas précisé l'âge qu'elles avaient. Et là, pour la toute première fois dans cette histoire-là, je dois me ranger à tout le moins en partie du côté des forces de l'ordre. J'ai un certain inconfort avec les personnes mineures, des études sur scène, c'est peut-être mon côté puritain. Mais Cet aspect-là de la chose n'a que rarement été mentionné dans les discussions entourant le procès. J'ai lu une grande partie de la décision du juge, il ne semblait pas avoir tenu compte de ce facteur particulier. Le procès était assez bref, il y a une foule de témoins qui défilent à la barre, Gracien Gélina, des critiques de spectacle. On a même demandé à un religieux, un révérend père du Collège Sainte-Marie, qui est venu dire qu'il n'avait pas été offusqué. Les policiers de l'escouade de la moralité, pour leur part, ont décrit ce qu'ils ont vu. Ils trouvaient que certains gestes étaient suggestifs. Il y a un sergent de police qui a témoigné du fait qu'une danseuse, à la poitrine découverte, dansait au son des tambours, faisait des gestes, son corps allait de la droite vers la gauche, de haut en bas, et son buste suivait.
Ah oui?
Ça me semble bon signe en soi, n'est-ce
il
pas?
Me semble.
On bouge.
C'est le contraire qui aurait été inquiétant.
Le contraire, effectivement, aurait été inquiétant, mais ceci dit, évidemment, comme on le disait plus tôt, lorsque le buste bouge, ben c'est là que ça devient obscène. La série de spectacles des ballets africains s'est poursuivie pendant ce temps-là, à guichet fermé au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, sans que l'on couvre des artistes et sans que la police ne les force à le faire. On a ensuite donné deux spectacles à Chicoutimi, excellent accueil, critique enthousiaste. La police était sur place, mais n'avait rien trouvé de répréhensible. Et l'hebdomadaire Progrès Dimanche de Chicoutimi a tenu à préciser qu'il n'y avait rien d'obscène ou d'indécent dans le spectacle. J'ai senti une petite pointe envers Montréal dans l'article que j'ai lu de cet hebdomadaire. La décision dans l'affaire des ballets africains n'a été rendue qu'en janvier 1968, alors que les ballets avaient quitté le Québec depuis plusieurs semaines. Le juge a déclaré qu'il ne considérait pas que le spectacle faisait l'exploitation indue des choses sexuelles qui tend à dépraver et à corrompre les mœurs. Ce n'était donc pas une performance indécente et on a innocenté les accusés. Il y a une chose qui m'a frappé dans tout ce que j'ai lu à propos de ce passage des ballets africains et à propos des saltimbanques dont je vous parlais plus tôt. Il y avait très peu de support pour la croisade moralisatrice des policiers, que ce soit dans les journaux, dans l'opinion publique ou même dans les tribunaux, sauf la décision de première instance dans le cas des saltimbanques. On n'a pas boudé les ballets africains, au contraire. On n'a pas boudé le film I, a Woman, un drame érotique suédo-danois dont la police de Montréal a saisi certaines bobines en juillet 1968. Et si on remonte en 1965-1966, donc tout juste un peu avant, la police de Québec, cette fois, avait lancé une guerre aux shorts lorsque portée par des femmes sur la place publique. Et très vite, on a dû reconnaître que la guerre aux shorts était perdue et on a abandonné la lutte. Donc, on avait des forces de police et des autorités municipales complètement en retard par rapport à la population dans son ensemble. Et la police disait, on ne fait qu'appliquer les règlements. Les élus municipaux, Jean Drapeau en tête, disaient, nos règlements municipaux ne font que suivre le Code criminel canadien. Mais les uns comme les autres n'avaient qu'à bien se tenir parce que quelques mois après toutes ces affaires judiciaires, en mai 1969, est sorti un film bien de chez nous avec des artistes de chez nous, intitulé Valérie, où là, il y avait des poitrines dénudées, comme dans les ballets africains, combinées à la suggestivité des biens de la pièce, équation pour un homme actuel. Le monde était vraiment en train de changer. Les ballets africains, pour leur part, n'ont pas tenu rigueur aux Québécois trop longtemps. Ils sont revenus en 1970. Il n'y a pas moyen, Francine et Yvan, d'estimer la valeur de toute la publicité gratuite que l'escouade de la moralité a offerte à la troupe entre 1959 et 1967.
En fait, il n'y avait pas de médias sociaux, mais ils ont trouvé le moyen quand même de faire parler d'eux abondamment. C'est ce qu'on comprend.
Tout le monde, effectivement, ne parlait que de ça. Et puis, évidemment, si le maire donne son opinion, les journaux rapportent ce que le maire disait, etc. Donc, voilà.
Il faut dire qu'on était vraiment en pleine... C'était l'ouverture à tout, hein, à cette période-là, au Québec. Ouais. Révolution tranquille, modification majeure en éducation. Alors, il fallait que les décideurs s'adaptent et les policiers, bien, qui suivent, finalement, ce que les décideurs veulent mettre en place. C'est une belle période de nous rappeler. C'est une bonne idée de nous rappeler cette période, Marcel.
Il Merci beaucoup. Il passait énormément de choses, ça, c'est vrai.
Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Du côté des paractualités, je vais vous parler brièvement d'un voyage de 384 jours, le tour du monde pendant qu'il est encore temps. C'est le titre de l'article et l'auteur est William Thériault. Cet article est paru dans la presse.ca. En fait, les gens dont je vais parler, il s'agit d'une famille, Edith Lemay, son conjoint Sébastien Pelletier, qui, pendant 384 jours et 13 pays, ont fait voir la beauté du monde à leurs 4 enfants. Et il y en a 3 de ces 4 qui sont atteints de rétinite pigmentaire. Et ils se sont dit, pendant qu'ils en sont encore capables, c'est le temps de le faire. La rétinite pigmentaire s'est transmise génétiquement, commence normalement à affecter assez précocement. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, il faut partir vite, alors c'est le moment, allons-y. Et c'était un plan originellement prévu pour juillet 2020. Évidemment, ils ont dû attendre pour le concrétiser en mars 2022 en raison du contexte pandémique. Alors, c'est un voyage merveilleux. Ils sont revenus avec plein d'idées et voilà, on en reparlera sûrement.
Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et on va parler de technologie avec Francine Forget, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce sujet. Et on commence par la technoférence, c'est ça?
La technoférence.
Dans les relations parents-enfants.
Bon, c'est un mot qu'on met encore entre guillemets, mais c'est utilisé dans le milieu de la recherche. Et ça veut dire quoi? Ça réfère aux interruptions quotidiennes dans les relations interpersonnelles entre les parents et les enfants qui sont causées par des appareils de technologie numérique.
Moi, je pensais qu'il y avait des interruptions de la consultation d'appareils numériques.
C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine façon, oui.
Ça revient à ça.
Mais je vous dirais que c'est l'inverse. Vous pensez à ça, mais vous pensez aux humains avant de penser aux appareils.
Ah, c'est ça qu'il faut faire.
Okay. C'est ça qu'il faut faire.
D'accord.
Cette semaine, dans la presse Plus, on a parlé de ce phénomène dans un article intitulé « Quand l'écran fait écran aux relations parents-enfants ». Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y a plusieurs recherches là, qui se penchent là-dessus. Et je trouvais que ce papier de Valérie Simard faisait quand même, rassemblait bien là, certaines, je dirais, problématiques, pour utiliser un mot à la mode, qui sont vraiment reliées à ce phénomène. Bon, on voit des parents, par exemple, dans un parc, les enfants jouent. Et pendant qu'ils vont grimper dans les modules de jeu, qu'ils jouent au ballon ou qu'ils jouent à la cachette, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils ne regardent pas vraiment les enfants. Ils balaient l'écran de leur téléphone intelligent. Alors, tous ces phénomènes, et il n'y a rien d'autre, parce qu'il y en a plusieurs autres, parce que ce n'est pas des scènes qui sont maintenant exceptionnelles. Là. Je dirais que c'est des scènes quotidiennes, ces scènes technologiques. Et ça a inspiré une équipe de recherche de l'Institut national de santé publique du Québec qui fait cette étude dans le cadre de la stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes 2022-2025. Cette recension, parce que c'est une recension, c'est basé sur 15 études qui ont été publiées au cours des 6, ben pas tout à fait les 6 dernières années, parce que ça s'arrête à 2021, et c'est l'usage des écrans chez les parents les parents d'enfants de 0 à 6 ans. Et ça montre toutes sortes de scènes quotidiennes, comme par exemple l'allaitement. Pendant que la maman allaite, elle regarde quand même s'il n'y aurait pas,
courriel,
petit texto qui serait rentré, un nouveau courriel. Et les parents qui ont participé aux études compilées ont rapporté utiliser les technologies mobiles à peu près 23 % du temps d'éveil de leur enfant. Alors, c'est quand même pas mal, hein? Quand on regarde ça, oui. Alors, les pratiques parentales, c'est-à-dire la façon dont le parent va se comporter avec son enfant, peuvent avoir des effets directs sur le développement de l'enfant. Alors, on ne dit pas que nécessairement ces pratiques technologiques en ont, mais ce qu'on dit, c'est que de façon générale, ça laisse des conséquences. Et c'est ça qu'on est en train d'étudier. Quand on a toujours le regard plongé dans l'écran de son téléphone, ben, le parent, il est moins vigilant aussi. Il est moins sensible ou encore réactif aux besoins de l'enfant dans différentes situations. Et par conséquent, ben, il est moins là pour des situations d'apprentissage parce qu'on essaie toujours, quand, en tout cas, c'est ce qu'on essaie depuis des années, de le faire de façon différente selon, évidemment, les générations. Mais c'est toujours le même propos. C'est qu'on veut se servir de situations pour amener nos enfants à, ben, en fait, on les éduque de cette manière. C'est pas seulement théorique, l'éducation, loin de là. Les écrans qui sont partie prenante des séances d'allaitement, bien, semble-t-il qu'il y en a pas mal. 68% à 100% des mères qui ont participé aux études ont dit qu'ils ont utilisé leur téléphone intelligent durant l'allaitement. 68%, c'est beaucoup. 100%, c'est...
C'est beaucoup aussi.
C'est, oui, mais je veux dire, c'est moins, c'est plus rare. Ne l'ont pas nécessairement fait de façon régulière. C'est pas un moment, je veux dire ça comme ça, un moment où la maman va nécessairement dire, tiens, pendant que je l'allaite, je vais consulter mon téléphone intelligent. Alors que dans les 68%, ben, ça peut être le cas. Ça peut aller jusque-là.
Je comprends. Moi, à l'époque où je donnais le biberon à mes enfants, j'enregistrais des émissions, tu sais, c'est à l'époque où on avait des cassettes, là. Alors, j'écoutais la télévision, c'est un peu semblable, non?
C'est un peu semblable, peut-être, mais disons que la télévision n'amène pas nécessairement une interaction.
Non, c'est vrai.
Avec le téléphone intelligent, ça va plus loin. Si je consulte pour voir si je vais avoir quelque chose à faire, c'est une chose. Mais est-ce qu'on fait ça quand on regarde un texto? Généralement, on va y répondre, surtout le texto, parce que en fait, c'est un moyen de communication qui est supposé être ultra rapide. Hein? C'est supposé être le moyen le plus rapide.
Sauf que pour les garçons comme moi qui donnaient un biberon à un enfant, j'aurais pas pu écrire en même temps. C'est comme physiquement un peu difficile.
Ben, c'est parce que les mères, on est toujours habitués à faire plusieurs tâches en même temps. C'est reconnu, ça. Alors, au terme de la recherche, il n'y a pas de recommandation précise quant à l'utilisation des écrans. On ne veut pas bannir l'usage des écrans. C'est ça, je vous dirais que c'est un peu un éveil. On dit, ben faites cette attention, c'est ça. Si on veut favoriser une meilleure concertation avec la famille, ben c'est peut-être bon d'être, je dirais, sensible à cette situation-là. J'avais un petit sujet juste pour vous. J'ai pensé à vous, Yvan.
Oui, j'ai vu ça.
Une montre intelligente. Bien, peut-être quand ça fera plus qu'un an qu'on travaille ensemble, parce que cette montre...
Ça fait plus qu'un an.
Non, mais beaucoup plus, là.
Ah bon?
Oui, oui, quand on fêtera, peut-être... j'ose pas m'avancer.
Nos noces d'argent.
parce que cette montre qu'on dit qui est exceptionnelle... Elle coûte quand même la modique somme de 2 800 $ canadiens.
Ah, oh, ça me touche.
Ben, je vous dirais que c'est cher. Effectivement, comme ça, on dit « Ah! » Mais si on regarde les gadgets qu'on achète, si on regarde les écrans, le coût des écrans, le coût des iPads, etc. aujourd'hui, et pour un vrai, vrai sportif aventureux qui aime de la nature, ben peut-être que cette montre-là, il va trouver qu'elle, finalement, compte tenu de tout ce qu'elle fait, c'est pas si mal. Alors, c'est la compagnie Garmin qui propose la montre intelligente idéale. C'est comme ça vraiment qu'elle est décrite pour les amateurs d'excursions en plein air. Elle s'appelle la Marq, M-A-R-Q, Adventurer 2. Puis, il y a, entre autres, un GPS intégré qui paraît que c'est quelque chose dans le sens que vraiment, on se perd pas dans le bois avec ça.
Et j'imagine on peut être trouvé si jamais on a un accident.
Oui. Voilà, voilà. Alors, c'est un gadget super intelligent qui sert à tout. Il peut mesurer la fréquence cardiaque. Il peut aussi nous aider dans les habitudes de sommeil. Donc, si on a des problèmes de sommeil, il peut nous aider. Il peut nous aider aussi, ça peut être comme notre entraîneur personnel, parce que ce modèle-là, il est conçu justement dans un contexte sportif et un contexte de randonnée. Donc, il compile des données, il va vous dire en fait ce que vous avez fait le dernier mois, si vous ne vous en rappelez pas au niveau de l'entraînement, et ce que vous devriez faire compte tenu de ça pour parfaire votre entraînement, et ce que vous voulez faire aussi. C'est quand même intéressant. La pression artérielle, le taux d'oxygène dans le sang, et plus encore.
Mais ça part pas un feu le soir quand on...
Ben là, pas encore, mais ils sont pas loin de ça. En tout cas, François Charron, qui, sur son site, n'en dit que du bien. Et en plus, l'autonomie de la batterie, 30 jours.
Ah, ça,
30 jours.
Ça, c'est intéressant quand même.
Et pour le chargeur, ben, c'est un chargeur à clip. Qui est quand même fourni pour 2 800 $.
Le chargeur vaut 2 800 $?
Non, non, j'ai dit pour 2 800 $, le coût de la montre, le chargeur est fourni.
Ah, il fournit
ça. Ah, mais parfois, vous le savez, hein, vous savez, à Apple, au début, là, moi, j'ai commandé des tablettes aux États-Unis et on a reçu nos premières tablettes, je vais toujours me rappeler, mais il n'y avait pas de carte SIM dedans. Alors, il fallait commander la carte SIM en plus, mais on ne le savait pas. Alors voilà, c'est une montre intelligente idéale, c'est ce qu'on dit pour les amateurs de plein air et d'activité physique, d'autant plus qu'elle est super résistante puisqu'elle est faite en titanium. Alors, c'est une belle...
Elle vient de moins.
Pensez-y, fête des pères. Vous demanderez ça pour la fête des pères.
Je vais y penser sûrement.
Dors mon poussin, dors mon bébé, ma petite fleur, ma petite fée. Déjà une dent, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'il fout le marchand de sable? Allez demain, faut être en forme, maman travaille, elle se défonce. Tu sais la nuit, y'en a qui dorment, fais comme papa, regarde, il ronfle. Dodo, l'enfant d'eau, on joue à dormir tout de suite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Maman est là, faut pas pleurer. Faut être un bébé bien élevé qui dort quand maman a sommeil et qui me casse pas les oreilles. Tu sais, la nuit, c'est pas prudent. Faut faire dodo, faut faire risette. C'est ce que font tous les enfants qui veulent pas passer par la fenêtre. Dodo, l'enfant d'eau, sinon je te déshérite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Allez ma puce, allez mon ange, c'est la troisième fois que je te change. Pitié pour une mère débutante, mais tu tiens de qui pour être si chiante? Non, non, maman, s'énerve pas, mais tu me prends le sein ou bien la tête? Moi, à ton âge, j'étais sympa, tu sais ce qu'elle dit, la mère parfaite. Dodo, l'enfant d'eau, espèce d'antiféministe. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit bientôt, alors maintenant, il faut pas faire mentir maman. Pas du tout pédagogique. Tu dors ou bien j'appelle les flics. C'est misérable, je sais plus quoi faire. Je vais tout de même pas te mettre en prison. Ou pire encore, avec ton père sur le canapé du salon. Dodo, l'enfant d'eau, relation mère-fille père-fille. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. J'ai dit dodo, l'enfant d'eau, crise de nerfs, maman limite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien. Mon ange, c'est mon portrait.
C'était Agnès Bill avec La complainte de la mère parfaite.
Et je soupçonne que c'est Mathieu qui a choisi cette chanson-là.
Absolument.
Alors Mathieu, moi je garde des jumeaux une fois par semaine et je ne leur ferai pas jouer cette chanson-là parce qu'ils ne dormiront pas de toute la nuit sûrement.
C'est probablement une mère qui voulait maintenir des bonnes relations interpersonnelles avec son enfant et qui voulait, en toute bonne conscience, continuer à consulter son téléphone intelligent.
Je pense qu'elle aurait été mieux de se concentrer sur son écran.
C'est ma conclusion.
Enfin, et je parle maintenant avec Alexandre Saint-Arnaud de la Fondation des aveugles du Québec. Alors, M. Saint-Arnaud, est-ce que vous avez des enfants?
Oui, bonjour, ça va bien. En fait, effectivement, on a des enfants. On est complet pour notre saison de vélo tandem qui a débuté le samedi 29 avril dernier.
Oui.
On a commencé avec une formation avec nos moniteurs pour leur donner la information nécessaire pour comment on guide un aveugle en vélo tandem, comment on leur décrit leur vélo tandem. Donc, il y avait une petite formation de 2 heures avant l'accueil des jeunes. Donc, un franc succès, il a fait super beau. Il a plu juste à la toute fin.
C'était une bonne idée. C'était bien organisé.
Oui, c'était bien organisé.
Les guides, ils ont quel âge, ça?
Les guides, ils ont entre 20 et 30 ans. Puis j'ai même une personne, un bénévole, qui a plus de 40 ans. Donc, c'est une super de belle équipe.
Ça, c'est vraiment âgé, ça.
Ben ça, je trouve ça très vieux, trop vieux, probablement.
Ah, ben c'est dans mes âges, hein. Donc,
Ah, OK, ça nous rassure, ça nous rassure.
Ça me rajeunit pas mal.
Donc, voilà pour le Vélo Tandem. Super belle saison qui continue, d'ailleurs.
Oui, samedi. Puis c'est samedi que vous continuez?
Exactement.
Donc, là, vous allez avoir une super de belle journée. Prévoyez de la crème solaire.
Oui.
Au rouleau, probablement.
Prévu. Oui. Donc, voilà. Puis, on termine avec le Tour de l'île le 4 juin, qui est au Parc Maisonneuve, donc tout près de la Fondation des Aveugles. Donc, c'est positif pour nous.
Oui. Mais vous faites le Tour de l'île au complet, là? C'est quoi? C'est combien maintenant? Oui.
On fait le tour de l'île au complet avec nos participants. C'est pour ça les pratiques qu'on fait dans le calendrier du printanier. On commence avec des petites distances, puis plus on avance dans les samedis, plus on rajoute des kilomètres, et puis pour terminer avec le grand tour.
Très préoccupé par la distance, ça, j'ai entièrement confiance. Mais de guider un tandem avec plein de monde autour, ça doit quand même être un exercice.
Oui, c'est un bel exercice de stabilité, d'endurance aussi, mais généralement, les gens qui nous croisent avec nos dossards handicapés visuels et guides, souvent, ils font très, très, très attention. Donc, ça, pour ce côté-là, on est choyé.
Parfait.
Oui.
Ensuite, on parle de l'avancement du calendrier printanier? D'été plutôt, excusez-moi.
Estival, oui, ça réfère à l'été.
Oui, ah, c'est ça, hein? C'est ça. C'est
exactement, les belles températures arrivent, donc c'est signe de l'été. Effectivement, nous, notre programmation estivale est sortie depuis près de un mois, et puis nos activités au niveau adolescent sont maintenant complètes, donc on ne prend plus d'adolescents. Par contre, on a une liste d'attente, puis aussi de la disponibilité pour les plus jeunes, donc de 6 à 12 ans. Ça va super bien. On est très, très, très contents. Puis on a une belle programmation, puis les parents sont très, très, très heureux de voir ce qu'on peut leur offrir, encore une fois.
Est-ce que c'est une programmation qui est entièrement sportive ou il y a des activités culturelles aussi?
Il y a des activités culturelles, il y a des activités artistiques. On va aussi faire du café céramique. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, oui.
Donc, on va aller faire du café céramique. On a des cours de musique, donc de tam-tam. Donc, c'est varié. C'est varié cette année. On mise sur le sport, mais on mise aussi sur d'autres activités.
Puis les dates de ces activités-là, c'était quoi?
Oui, ça commence le 26 juin. Donc, dans cette semaine du 26 juin, il va y avoir un cours de tam-tam et de café céramique. Et puis, par la suite, ça se termine le calendrier le 11 août.
Fantastique. D'autres choses à ajouter? Avant que je déclare la sentence?
Non, j'ai rien à rajouter, c'est super. Merci beaucoup encore une fois.
Alors, on se reparle maintenant dans 6 semaines, parce qu'on a d'autres organisations qui se sont joints au groupe. Et dans 6 semaines, on va être tout près justement du début de votre programmation estivale. Alors, vous pourrez nous faire une mise au point à ce moment-là.
C'est super, je vous remercie beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
De notre émission. On a beaucoup de plaisir dans ce dernier droit-là, en général. Hein?
Mais c'est drôle parce que j'allais dire on a beaucoup de plaisir, mais pas juste dans ce dernier droit-là. Ça passe tellement vite que je me disais, est-ce que je suis perdue? On est vraiment rendu à cette portion.
Est-ce que j'ai parlé de ça? D'ailleurs, on peut peut-être le dire, hein, que on va être en onde tous les vendredis, même cet été, Mais oui. Au retour, au mois de septembre.
Ben oui.
Allez-y.
Un petit peu plus long.
Un petit peu plus long.
Un petit peu plus long.
Oui, notre émission va durer 2 heures à partir du mois de septembre. Donc, peut-être qu'on va avoir un peu plus de temps pour passer toutes les choses qu'on ramasse pendant la semaine.
On se pratique pour avoir un débit un peu plus lent. Alors, ça va permettre peut-être de... Des fois, on est vite un petit peu, on a tellement de choses à vous dire, chers auditeurs et auditrices.
On a tout l'été pour se pratiquer. Allons-y.
Quoi faire?
En fin de semaine.
Bon, alors, on l'a répété ad nauseam, mais il faut encore le dire. Est-ce qu'on va à Londres? Il va y avoir du soleil.
Ah oui, OK.
Oh, pas moi.
Vous n'allez pas à Londres?
Non, moi, la royauté, je vous réserve ça.
Je m'attendais à ce que vous fassiez la description. Oh, j'espère qu'à Infoman, ils vont faire la description.
Probablement.
Ils sont bons là-dedans.
Oui, généralement. On verra. Un grand tour au grand quai du port de Montréal. Le port de Montréal, son grand quai, si vous n'y êtes jamais allé, il faut y aller. C'est très beau. C'est un bel édifice. Il y a une...
Oui. C'est l'édifice où on reçoit les bateaux.
Oui, mais c'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes face à votre gauche, vous avez, oui, des bateaux. Mais le Grand Quai, c'est en fait un lieu d'exposition.
Oui, OK.
Il y a une exposition gratuite à l'intérieur. Ça s'appelle À bon port. C'est des activités et des métiers portuaires. Alors, ça permet... d'en apprendre un peu plus. C'est très intéressant pour tout le monde. Moi, je l'ai fait à quelques reprises. Et pour les jeunes, c'est le fun. Il y a de l'interaction et c'est gratuit. Mais en plus de ça, quand on prend les escaliers, à notre gauche toujours et très près où les bateaux arrivent, à ce moment-là, vous arrivez sur la plateforme. Et là, vous pouvez vous promener. La plateforme, elle est longue.
Très longue, oui.
Elle est agrémentée d'un magnifique jardin. Bon, à cet instant-ci, c'est
un début. C'est un début de jardin.
Des petites pousses. C'est un début.
c'est une start-up pour rester
dans le domaine technologique.
Oui.
Jeune pousse, voilà. Donc, c'est très intéressant et ça offre des vues imprenables sur Montréal. À surveiller, je ne crois pas, en tout cas, ça ne l'était pas cette semaine quand je suis allée, et il y a beaucoup de difficultés à avoir de l'information là-dessus, mais c'est construit. Alors, il y a une tour d'observation qui est terminée à la fin de la plateforme, et un jour, bientôt, cet été, c'est sûr, on pourra aller dans cet observatoire et voir, semble-t-il, des vues extraordinaires. Et,
quand vous parlez au bout de la plateforme, là, c'est près de l'eau, là.
Ah, c'est très près de l'eau. Avant, on pouvait aller jusque-là. Et après, on a fermé ça, mais ça a duré tellement longtemps, la construction de cet observatoire, à cause, entre autres, de la pandémie. Alors, c'est ce qui fait que
Oui.
Et si jamais vous en avez passé, vous êtes juste à côté du Centre des sciences de Montréal.
Oui.
Et il y a tellement d'expositions au centre pour les petits, pour les grands. Il y a entre autres l'expo Fabrique, où c'est un défi créatif qui est axé sur l'invention et l'assemblage d'objets de toutes sortes et où parents et enfants peuvent très bien... participer. Le défi hockey est encore là aussi, plus rapide que jamais, hein, les habiletés et les coulisses du hockey. Alors ça, c'est peut-être pour vous, finalement, Yvan.
Oh, mais vous savez, je ne fais pas que ça.
Non, mais je vous le dis, des fois, si je me force pour vous trouver des belles activités. Petites activités. Franchement.
D'ailleurs, je ne sais pas si la navette a commencé, là, qui part de Pointe-aux-Trembles.
Je ne crois pas. Je suis allée, moi, 2 fois cette semaine... pour vérifier, parce que ça, c'est difficile des fois d'avoir de l'information. Oui. Et je me suis rappelé qu'on met à l'eau là, tous les bateaux, là, le bateau mouche, petit navire, etc. C'est plus autour de la fête de la reine, des patriotes.
Oui, oui.
En tout cas, autour de ce lundi qui s'en vient bientôt.
D'accord.
Autre chose, Passage à découvert 2023, c'est Galerie de l'UQAM, donc c'est à l'Université du Québec à Montréal, mardi au samedi de midi à 18h. Donc, vous pouvez aller voir dans cette galerie. J'aime toujours ce très beau moment qui se termine malheureusement le 6 mai, donc il ne vous reste plus beaucoup de jours. J'ai oublié de vous en parler. Voilà, c'est demain. C'est l'exposition... annuel où on présente à la Galerie de l'UQAM des travaux de finissant du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques. c'est extrêmement intéressant parce que c'est la relève, comme on dit, mais aussi des... Je trouve qu'il y a beaucoup de créativité. Peut-être que parfois la technique reste à parfaire, mais on est en début de carrière. Il faut bien comprendre ça. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même des grands noms hein, qui sont passés là. Et faut pas oublier que c'est comme un début de quelque chose. Alors, c'est extrêmement intéressant. Et si vous en avez assez du soleil... ou encore en soirée.
Ça m'étonnerait.
Ben, ça se peut. Rapidement, parce que je sais qu'hier, vous en avez fait une entrevue avec le réalisateur Hugo Rouzon.
Oui, oui, oui.
C'est la série « Comme des papillons » qui est diffusée sur Vrai. Et ça traite de santé mentale. Et ça aussi, c'est la semaine de la santé mentale s'achève. Elle se termine non pas demain, mais dimanche. Alors, c'est intéressant d'entendre des témoignages de plusieurs personnalités qu'on connaît très bien, nommons Claude Legault, puisqu'il en a fait beaucoup la promotion cette semaine,
oui.
Louise Latraverse, Marianne Amadza, etc.
Oui, c'était des entrevues où les gens sont extrêmement généreux. Et ils se racontent sous une lumière qui les met pas toujours à leur avantage. C'est vraiment, vraiment intéressant.
Mais c'est vrai. C'est sur la plateforme Vrai et tout, c'est vrai.
Tout à fait.
Alors, et vous, Yvan?
De mon côté, je vous suggère, il y a au Parc olympique, au centre sportif du Parc olympique, à la piscine du 5 au 7 mai, donc ça commence aujourd'hui, c'est la Coupe du monde de plongeon Montréal 2023.
Ah.
Qui va avoir lieu. Les préliminaires, c'est gratuit. Et on paye seulement si on assiste au final. Il y a une histoire humaine intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pamela Ware. C'est une plongeuse canadienne qui vient de l'ouest de l'île, me semble. Non, de Greenfield Park, sur la rive sud. Et aux Jeux olympiques de Tokyo, elle a complètement raté son dernier plongeon.
Oh oui, je me rappelle très bien maintenant que vous le dites. Oh, malheureux.
Elle a eu beaucoup de difficultés à revenir. Et là, elle travaille avec un nouvel entraîneur. Elle va être en double, en synchronisé, lors de cette compétition-là. Je l'ai entendu à la radio hier. Ça a l'air d'une jeune dame qui est une jeune dame. Par rapport aux plongeuses, là, c'est une patriarche quasiment, une matriarche peut-être, mais elle a l'air vraiment en confiance. Ça va être intéressant à aller voir. Ensuite, il y a la Journée mondiale du rire à Montréal. Ça se passe au Centre Saint-Pierre, c'est le 7 mai, c'est dimanche, de 13h à 14h. Puis j'ai un communiqué de presse quelque part, oui, c'est ça. C'est le 20e anniversaire de l'école du yoga du rire et c'est la journée mondiale du rire sera célébrée cette journée-là. Et la dame qui s'occupe de ça, elle s'appelle Linda Leclerc, mieux connue sous le pseudonyme de Linda Haha Sister.
OK.
C'est comme ça.
Bon.
Il me reste une minute pour parler de vélocité. C'est vous qui m'avez fourni cette information. Je ne le savais pas. Donc, Vélocité, c'est 3 jours d'activité autour du vélo. Vous allez sur le site pour avoir toutes les informations. Il y a des conférences, il y a des films et il y a des courses aussi sur le circuit Gilles Villeneuve. Ça se passe en fin de semaine.
Et voilà, c'est sur ce week-end bien rempli. On l'espère qu'on vous laisse. Alors, merci à Mathieu Tessier et à Jennifer Andeau qui étaient à la régie. Merci à vous, Yvan. Évidemment, merci à nos chers auditeurs de nous accompagner. C'est toujours un plaisir, comme on l'a mentionné. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Et Yvan, vous avez sûrement un petit mot à dire en quittant.
Oui, la semaine prochaine, ça commence à 9h30. C'est au Canal M et c'est un rendez-vous. Alors, on se réécoute, on se parle la vendredi prochain. Au revoir.
Vous pouvez rejoindre l'équipe.